Donc cette semaine, nous entrons dans la 19e semaine du temps ordinaire avec le livre d'Ézéchiel que nous ouvrons aujourd'hui. Avec un songe assez mystérieux, faut bien le dire, ce qui est déjà un premier enseignement. Dieu est libre de faire entendre la parole qu'il veut, comme il veut. Même s'il reste des choses très mystérieuses. Et alors la lecture que nous avons entendue est pas mal amputée. Hein. Donc je vais évoquer des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont dans les passages qui auraient pu être lus. C'est ainsi. Il est assez vite question du chiffre 4. Il y a 4 vivants. Alors d'abord, c'est des vivants, quoi. C'est pas des morts. L'évangile, c'est fait pour les vivants. Si vous ne voulez pas vivre, si vous voulez mourir, vous arrêtez de lire l'évangile tout de suite. Voilà. L'évangile, c'est fait pour les vivants. Et alors, ils sont tellement vivants qu'ils ont une apparence humaine, avec des faces assez curieuses. Donc ça, vous ne l'avez pas entendu, mais on nous dit que le premier a une face d'homme, l'autre un lion, un taureau, un aigle. Et ce sont les symboles des 4 évangiles. Donc c'est important de savoir que ce songe est mystérieux à l'époque d'Ézéchiel et que personne ne peut deviner. Mais nous avons déjà là une annonce de ce qui va arriver. Et ce mystère se poursuit avec cet homme, ce personnage sur un trône qui a une apparence d'homme, qui figure évidemment l'incarnation, qui est déjà annoncée par Ézéchiel. Et je voudrais aussi noter, je reviens un peu en amont, là vous l'avez entendu, on nous dit la main de Dieu était sur lui. Alayav Sham Yad Adonai. C'est le mot Sham qui m'intéresse ici. Donc sur lui, là, avec un accent, la main de Dieu. La main de Dieu est là. La présence de Dieu est là. C'est un des thèmes du livre d'Ézéchiel. La présence de Dieu est là. Elle est mystérieuse, elle est fascinante, on est troublé, il est là. Dans une conférence qu'on m'a transmise récemment, le cardinal Schönborn disait que l'origine de sa vocation, il a un souvenir très précis. Il est rentré dans une église enfant et tout à coup, il a eu il a été comme pris par une présence et il est parti, il a fui, il est parti en courant tellement il était impressionné, quoi. Bon voilà, c'est Dieu est là. Alors je le sens pas toujours, c'est officiel, c'est clair. Mais Dieu est là et il se manifeste comme il veut. Alors je dis que c'est important parce que ce sont les dernières lettres, les deux derniers mots du livre d'Ézéchiel. Hein? À la fin du livre d'Ézéchiel, on a Adonai Shama. Dieu est là. C'est vraiment le message, ces deux paroles encadrent le message d'Ézéchiel. Et puis, je reviens un peu en arrière sur la voix du Tout-Puissant. On nous parle de la voix du Tout-Puissant. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement dans d'autres traductions. Et en fait, le Tout-Puissant, ici, c'est Shaddai. Et Shaddai a une origine. Les rabbins disent que Shaddai est composé de deux mots. C'est évoqué par Marion Muller-Collard dans son livre sur Job. C'était composé de mots de Sha qui veut dire ça et Dai qui veut dire suffire. Shaddai, ça veut dire ça suffit maintenant. Et c'est assez intéressant d'avoir cette idée du nom de Dieu qui un peu qui se fâche, quoi. Le Shaddai, c'est celui qui intervient dans le livre de Job. Bon, maintenant ça suffit. Hein. Voilà, moi je referme la parenthèse. Mais donc nous avons dans ce livre d'Ézéchiel des révélations sur ce qui va arriver, sur qui est Dieu, sur l'incarnation à venir, sur les évangiles. Donc c'est important d'avoir ça, mais ça reste très mystérieux. Et c'est peut-être ça qui fait le lien avec l'évangile, qui là aussi est assez mystérieux. Parce qu'il y a l'annonce de la passion, et puis une histoire un peu dingue. Soit dit en passant, la passion, c'est quand même une histoire un peu dingue aussi. Et je pense qu'il y a un parallèle. C'est comme si l'évangéliste avait voulu nous dire, vous savez, la passion, ça va être un truc franchement pas commun, quoi. Jésus vient d'annoncer sa passion et tout à coup, on a une histoire de poisson dans lequel il y a une pièce d'argent. Franchement, ça veut dire quelque chose. Et relevé dans cet évangile le rôle de Pierre. C'est Pierre qui est au premier plan, c'est assez frappant, hein. On vient voir Pierre. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres passages où quelqu'un dans l'évangile vient voir Pierre. Mais ça tombe bien parce que le premier qui est venu voir Pierre, en fait, c'est André qui lui a dit, dis donc, on a trouvé le Messie. Mais c'est pas dans saint Matthieu, hein, dans saint Jean. Et alors Pierre, oui, on viendra le voir dans les Actes des Apôtres, le nouveau Pierre, le Pierre de la résurrection. Mais ce Pierre-là, c'est la seule fois, je crois, où on vient lui demander un truc. Les pharisiens ou ceux qui récoltent l'impôt, là, viennent lui dire, dis donc, ton maître, pourquoi ils vont pas le voir directement? Je ne sais pas. En tout cas, Pierre joue un rôle d'intermédiaire et c'est très intéressant qu'il fasse ça. Et alors Pierre, spontanément, il dit, bah, bien sûr, mon maître, il est dans les clous, hein. Il est normal, il y a un impôt, il paie, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Et puis, le texte nous dit, assez curieusement, quand ils arrivèrent à la maison. Donc, on imagine qu'il s'est quand même passé deux, trois trucs. Ils ont marché, il y a eu un silence. Bon, c'est mon imagination, hein, c'est gratuit, c'est pas écrit. Il y a peut-être eu un petit malaise, quoi. Pierre s'est peut-être dit, tiens, j'ai peut-être parlé vite, j'aurais peut-être mieux fait de demander à Jésus. Bon. Et alors, ce qui me fait penser ça, c'est que nos traductions disent Dieu prit la, Jésus prit la parole en premier, c'est pas du tout ça. Hein. Jésus devança Pierre. Proeftasen. Il devança Pierre. Donc Pierre, Pierre, il faut toujours qu'il en sorte une. Et Jésus a réussi à la voir à la course et à dire quelque chose avant. Et il lui pose une question. Et alors, je trouve qu'il y a une délicatesse paternelle bouleversante. Un petit garçon qui a fait son ânerie et puis son papa vient lui dire, dis donc, qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, pour lui faire découvrir la vérité, pour lui faire découvrir, lui faire dire, tu vois, en fait, tu aurais pu trouver tout seul. Et il fallait prendre un peu de temps et réfléchir un petit peu, et puis poser une question. Hein, je ne pense pas que Jésus ait fondé l'ordre des Jésuites ce jour-là, mais il pose une question, il répond par une question, par une question. Ça me paraît intéressant comme enseignement de Jésus. Et puis nous voyons dans cet évangile donc, que Jésus n'est pas du tout reconnu comme ce qu'il est, puisqu'il va payer l'impôt, donc il se considère comme un étranger. Aux yeux des autres. Rapport assez intéressant avec Ézéchiel, où il a une apparence, on ne sait pas trop, est-ce que oui, est-ce que non, qu'est-ce que c'est. Bon. Voilà. Donc, et à contrario, l'histoire que Jésus raconte à Pierre, la question qu'il lui pose, c'est est-ce que les fils paient l'impôt? Enfin, c'est pas ça qu'il lui demande, c'est ce que Pierre répond. Ça. Et alors, ce qui est très intéressant là, c'est que Jésus va dire la pièce, tu vas la donner pour toi et pour moi. Ça veut dire que Pierre est un fils lui aussi. Ça, c'est étonnant. Pierre est déjà un fils parce qu'il est déjà fils parce qu'il est frère de Jésus. Alors, ça nous parle du regard de Dieu sur nous. Nous sommes regardés par Jésus comme des fils et des filles de Dieu. Et non pas comme des trucs inutiles qui servent à rien, dont on se demande ce qu'ils sont venus faire, quoi. Alors, il faut consentir à ce regard de Dieu, hein, quitte à dire au Seigneur, écoute Seigneur, je crois que tu me regardes comme ça, mais voilà, je suis désolé que ça me mette pas le feu, quoi. Parce que je voudrais que ça me mette le feu et c'est pas le cas et c'est pas normal, alors fais quelque chose. Ça peut être le sujet de notre prière, ça peut être l'objet de notre prière. Bon. Donc il y a ce mystère du discernement aussi. Donc, hein. Il faut discerner ce regard de Dieu, discerner ce qu'on doit dire. Bon, donc je dis un mot sur l'histoire rocambolesque, parce qu'elle est quand même assez géniale, quoi. Donc Pierre, il va chercher une canne à pêche, ça va prendre un peu de temps, il va à la pêche, il trouve un poisson, et ce que personne n'avait jamais eu l'idée de chercher, dans la gueule d'un poisson, il trouve une pièce. Et là, on est un peu bluffé, quoi, parce que les pièces d'argent, c'est pas exactement dans la gueule des poissons qu'on va les chercher en général. Et Jésus ose dire, on va pas les scandaliser, quoi. Tu vas faire un truc qui est hallucinant, juste pour pas les scandaliser. Il y a un peu d'humour, je crois, là, un peu beaucoup. Bah, c'est complètement dingue, quoi. Imaginez, tu vas où? Je vais à la pêche, j'ai besoin d'une pièce de monnaie. Ah ouais. Donc voilà, bon. Alors Jésus fait ça de façon extraordinaire pour montrer la toute-puissance, là aussi, voyez. Toute-puissance, la voix du Tout-Puissant qui s'adresse à Ézéchiel. Bah, il est tout-puissant, il a tout créé, quoi. Donc créer la terre, mettre une pièce d'argent enfin, c'est une blague, quoi. C'est pas compliqué. Donc, nous découvrons un Jésus tout-puissant qui se laisse voiler, qui se laisse prendre pour un étranger. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Ouais, on a tout ça derrière. Donc, que cet évangile, ces lectures, soient pour nous peut-être aujourd'hui une occasion de consentir au mystère de Dieu. Et c'est humiliant pour des chrétiens, pour des catholiques de dire oui, non, non, la foi, c'est pas ce que vous croyez, les petits gars. Hein. C'est pas évident. Nous sommes dans un mystère de la souffrance, notamment. Voilà. Mais le mystère du règne de Dieu. Dieu permet, et oui, il a permis. Ah oui, mais si Dieu était seul, il permettrait pas. Non, si Dieu était à l'image de ce que tu penses, il permettrait pas. Mais Dieu, c'est Dieu, il ne peut pas se tromper. C'est dans la foi, on est d'accord. Donc voilà, nous pouvons être un peu humiliés de ne pas savoir quoi répondre. Sauf que Jésus a dit, cherchez pas quoi répondre, c'est le Saint-Esprit qui répondra. Hein. Donc voilà. Et puis pensons bien à ce regard de Jésus sur nous. Vous savez, quand on a fait la première représentation de la Vierge Marie à Lourdes, on a demandé à Bernadette ce qu'elle en pensait. Alors elle a dit, ah, mais vous lui avez fait un gloître. Alors on lui dit, non, non, c'est parce qu'elle regarde vers le ciel. Et Bernadette dit, eh, mais c'est moi qu'elle a regardé. Alors, ça a dû paraître très très présomptueux, évidemment, puisque. Sauf que, ouais, c'est elle qu'elle a regardé. Et Jésus nous regarde aussi. Marie n'aurait pas regardé Bernadette comme ça si elle ne l'avait pas apprise de Dieu, cette manière de regarder. Donc, laissons-nous regarder. Laissons-nous regarder. Amen.